La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le ressuscité. Je ne sais pas si dans le froid et la neige, il y a la grâce de Dieu, mais on peut toujours le supposer. Dans tous les cas, soyez les bienvenus, vous qui avez bravé les intempéries pour venir dans ce temple du foyer de l'âme, pour participer à notre culte. Soyez toutes et tous les bienvenus, quelle que soit votre appartenance, si vous êtes là pour la première fois ou si vous êtes des habitués. En tout état de cause, j'espère que vous avez les deux registres, le bleu et le marron. Tous les chants seront commandés, mais vous pouvez déjà, en ce qui concerne le registre bleu, aller directement à la page 20. Ça vous y serez tout de suite. Je vous accueille toutes et tous, évidemment, dans la joie et dans l'espérance, ça va de soi. Mais j'accueille aussi Anne-Laure Danet, qui est au premier rang, que vous entendrez tout à l'heure nous parler de la transmission. Et Anne-Laure a été pendant je ne sais plus combien d'années dans la catéchèse nationale, combien ? 8 ans, je croyais un peu plus. Ouais. Bon, voilà. Et maintenant, elle est au DEFAB, c'est-à-dire aux missions, ce qu'on disait autrefois les missions. Voilà, donc soyez les bienvenus pour ce moment de culte conférence, comme nous avons la tradition de les faire à la charnière entre le mois de janvier et février. Et je vous invite tout de suite à invoquer le Seigneur notre Dieu par le chant de la page 20, les registres bleus. Au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. À voir le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme qui en prend le souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs, de brebis et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin. Sur terre et dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Et je vous invite à poursuivre cette louange par le psaume 116. Et du psaume 116, nous chantons les strophes 1, 3, 4, 7. 1, 3, 4, 7. Père, merci de nous avoir réunis autour de toi ce matin, malgré les difficultés qui se sont dressées sur nos chemins. Nous sommes venus d'horizons divers pour vivre de ta présence et de ta parole, pour te remettre nos vies passées, présentes et nos espérances pour le futur. Oui, Père, en toute confiance, nous te remettons nos vies et tout particulièrement ce qui pèse sur nos épaules, ce qui nous pose problème, ce qui nous a fait chuter. Il y a tant et tant de choses qui sont là, qui nous empêchent de vivre dans la sérénité, en ta présence, de vivre de ta parole, de vivre de ton amour. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous avons fait du mal, volontairement ou involontairement, lorsque nous avons menti, caché la vérité, lorsque nous avons frappé l'un ou l'autre, lorsque nos silences ont été coupables, lorsque nos égoïsmes nous ont envahis, lorsque nos peurs nous ont paralysés. Pardonne-nous pour tout cela, mais aide-nous à redresser la tête en ta présence et aller vers les chemins sur lesquels tu nous lances sans cesse et sans cesse. Chemin d'espérance, chemin de joie, peuvent nous sembler parfois difficiles, mais ils sont toujours des chemins de vie. Père, donne-nous l'espérance, donne-nous la foi et l'amour, comme le dit l'apôtre, pour que nous puissions vivre vraiment selon ta volonté, dans la nudité de l'humain, dans un face-à-face avec toi, plein de joie, plein de mouvement et plein de vie. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur d'écouter nos prières, de prendre en charge nos vies, de participer à nos peines, de porter nos chagrins, de partager nos joies aussi. Amen. Dans le psaume 103, nous avons cette parole. Le Seigneur Dieu est tendresse et pitié, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment de reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. La bonté du Seigneur durera toujours. En écho à ces paroles lointaines, la Nouvelle Alliance dit ceci: Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont nous faisons partie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Et je vous invite à chanter à Dieu notre reconnaissance, page 23 des livrets bleus. Oh, que ces choses belles te louent, Seigneur. Père, merci pour les paroles de ce psaume et les paroles de la Nouvelle Alliance qui nous annoncent la grâce et ton amour. Mais tu sais que ces paroles ont toujours besoin d'être renouvelées. Alors au moment de lire l'Écriture que nous avons à notre disposition, ouvre nos cœurs à l'Écriture, au témoignage, afin que nous puissions en vivre chaque jour de notre vie. Amen. Et parmi les textes qui nous étaient chaudement recommandés à la lecture aujourd'hui, dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 8, les versets 22 et suivants, ils arrivent à Bethsaïde, et on amène à Jésus un aveugle, et on le supplie de le toucher de la main. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui cracha sur les yeux et lui imposa les mains en lui disant: « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrait les yeux et il disait: « Je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Il lui remit les mains sur les yeux. Quand l'aveugle rouvrit grand les yeux, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant: « Ne rentre même pas au village. » Et Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. En chemin, il se mit à demander à ses disciples, au dire des gens: « Qui suis-je ? » Et lui dire: « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Et lui leur demandait: « Et pour vous, qui suis-je ? » Et Pierre lui dit: « Toi, tu es le Christ. » Et il le rabroua pour qu'il ne dise rien à personne à son sujet. Et je vous invite à réfléchir sur ces paroles en prenant le chant du psaume 138.
Thank you. Bien d'abord, bonjour et je suis très heureuse d'être avec vous pour ce temps de culte. Et je me permets, avant de commencer, de vous demander si chacun a bien une petite feuille avec les Jocondes. Oui, voilà. Sinon, je crois qu'il en reste au fond. Servez-vous, parce que je vais commencer mon introduction avec ces deux tableaux. Alors, en attendant que voilà les feuilles se distribuent, je peut-être vous précise d'où je parle pour vous puissiez avoir le cadre un peu de mon propos. Donc, j'ai été 12 ans en paroisse en Normandie et après, c'était une grande joie et j'ai eu la chance d'occuper successivement des postes de formation. Formation des pasteurs par la CPLR. Donc, vous savez, cet organisme protestant luthéro-réformé. Et puis, ensuite, au pôle national de formation avec le service catéchétique. Et puis maintenant, au DEFAP, où je suis chargée du pôle France, avec tout un volet de formation. Et c'est plutôt de cet angle-là que je parle, de cette dynamique de formation qui est lancée dans les églises. Alors, évidemment, je vais faire une petite incursion spécifique sur la catéchèse, mais pas exclusivement. Voilà, alors c'est avec ce tableau très célèbre de la Joconde, repris par Pablo Picasso, et il y en a bien d'autres, j'aurais pu en prendre d'autres, que je voudrais introduire mon propos donc sur la transmission, et plus spécifiquement dans la catéchèse intergénérationnelle. Si vous regardez ce tableau, la Joconde de Léonard de Vinci occupe tout le tableau, avec cette prouesse technique dans le regard qui vous suit partout. Si au premier abord, c'est à une contemplation sur la beauté de la femme que le peintre nous invite, un travail plus approfondi nous fait voir qu'il s'agit en fait d'une réflexion sur le temps qui passe inexorablement, le temps que nul ne peut retenir. Je m'appuie là pour ce commentaire sur l'œuvre de l'historien d'art Daniel Arras. Il poursuit, regardez, il y a en arrière-plan un paysage, je sais que c'est petit, mais vous arriverez à le voir quand même. Il y a un paysage avec des montagnes très hautes dans la partie droite du point de vue du spectateur. Et tout en haut, un lac, et de l'autre côté, le paysage est plus bas. Les deux paysages semblent indépendants. Et Daniel Arras propose ceci, c'est qu'avec le sourire de la Joconde, le passage se fait de l'un à l'autre. En effet, alors là, ça se voit peut-être un peu moins bien parce que c'est petit, mais son sourire est dirigé du côté du paysage le plus haut, assurant la liaison entre les deux lieux. Et alors, évidemment, on peut dire qu'il s'agit d'une réflexion sur la double temporalité. La grâce est éphémère. Un sourire ne dure qu'un instant. Et avec ce sourire, on passe du temps immémorial du chaos au temps fugitif et présent de la grâce, mais on reviendra à ce temps sans fin du chaos et de l'absence de forme avec le paysage de l'autre côté. Évidemment, ce tableau a été jugé inadmissible par son commanditaire, puisque sa femme y est peinte et pilée comme les femmes de mauvaise vie, devant un paysage préhumain et presque terrible. Daniel Arras fait l'hypothèse que Léonard de Vinci a peint le pont, vous voyez qu'il y a un petit pont, symbole du temps qui passe, pour bien signifier à ce bourgeois florentin qu'il n'a pas peint n'importe quoi, mais qu'il y a bien une méditation profonde sur le temps. Et quand nous regardons le tableau de Pablo Picasso, qui peint sa Joconde, si je peux me permettre de le dire comme ça, on comprend tout de suite que le disciple s'est libéré du maître et qu'il l'a même porté ailleurs, autrement, à partir d'un autre contexte. La question du temps et de la grâce est reprise dans une toute autre préoccupation, parce qu'ici, on le voit bien, il y a une large réflexion sur les formes et les couleurs. Et je pourrais continuer comme ça à commenter ces deux tableaux. Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que ce travail de relecture, d'interprétation dans son propre contexte, à partir de questions, de préoccupations contemporaines, illustre bien le travail catéchétique, et en particulier cet accent mis aujourd'hui sur la catéchèse intergénérationnelle, c'est-à-dire une transmission qui valorise des changements, des déplacements dans la façon de comprendre la catéchèse, sa place et ses objectifs, une appropriation personnelle qui passe par le dialogue, des dialogues. Et je complète mon introduction par cette citation. Être maître, ce n'est pas trancher à coups d'affirmations, ni donner des leçons à apprendre. Être maître, c'est vraiment être disciple. L'enseignement commence quand toi, le maître, tu apprends du disciple, quand tu t'installes dans ce qu'il a compris, dans la manière dont il a compris. Cette citation de Søren Kierkegaard met en évidence l'enjeu de cette réflexion sur la catéchèse intergénérationnelle et que j'ai envie de résumer de la manière suivante. C'est une histoire de déplacement, de réécriture, de cheminement avec l'autre, avec les autres, et qui implique donc une posture particulière et une certaine compréhension de la transmission. Alors, de quoi parlons-nous quand on parle de transmission ? Le thème de la transmission est plutôt abordé aujourd'hui sous l'angle de la crise. Il est vrai que la chaîne traditionnelle est obsolète, nos églises le savent bien, en particulier avec la diminution de ses membres. Depuis déjà des décennies, le protestantisme ne se transmet plus de père en fils, et d'autres crises lui sont liées. Les repères traditionnels sont bousculés. Ainsi, avec la crise de la transmission, on a aussi parlé de crise de l'autorité, comme les débats dans l'enseignement en témoignent, avec par exemple la crise des vocations des professeurs, ou encore une forme de démission de certains parents à l'égard de leurs enfants adolescents. Crise, mais crise par rapport à quoi ? Vous savez, Platon déjà parlait lui aussi de crise de la transmission. Notre monde a changé, change, et ce qui était bien établi, bien rodé, n'est plus adapté. Ça ne fonctionne plus. Il s'agit donc d'accompagner ce changement, et c'est une priorité pour nos églises si nous voulons rester crédibles et entendus. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de transmission, qu'il n'y a plus de repères. La crise est le signal du changement de paramètres, d'espace, de mentalité. J'ai envie de dire, d'une certaine manière, tant mieux, parce que c'est signe de vie. Ce processus de changement est repérable à partir, en tout cas, de trois éléments majeurs. La mondialisation qui a considérablement changé nos sociétés. Il n'est plus possible de raisonner, de comprendre par rapport à sa seule sphère de vie, d'environnement. La crise économique en est un exemple. Deuxième élément, l'intensification des brassages culturels avec la multiplication des flux migratoires a profondément transformé aussi nos sociétés et aussi, bien entendu, la configuration de nos églises. Tout l'enjeu consiste à tenir ensemble ces deux paramètres avec d'un côté la valorisation des cultures particulières, car il ne s'agit pas de tout niveler ou de gommer les différences, et de l'autre côté, maintenir une vision globale, ouverte, sur le monde en interdépendance. Et puis, troisième élément, nous sommes dans un contexte de sécularisation qui s'étend à tous les continents. Ce phénomène oblige les églises, à partir de leur contexte, à repenser d'une part la formation de leurs membres pour apprendre à dire leurs convictions à partir des catégories du XXIe siècle et d'autre part à redéfinir leur place dans la vie publique pour faire entendre leur voix dans les débats de société. Tous ces éléments ont des incidences directes sur nos églises et sur la question de la transmission, en particulier dans la catéchèse, parce qu'elle doit se lire à partir de ces nouveaux paramètres, avec des problématiques, par exemple, comme celle de l'articulation entre église locale et église universelle. Comment la paroisse prend en compte la diversité culturelle en son sein, dans son évangélisation ? Comment elle vit concrètement les liens avec des églises sœurs ailleurs dans le monde, etc. La notion de transmission implique celle d'héritage, avec la valorisation de ce qui a été donné, de filiation, et donc de généalogie et d'identité, de mémoire et donc de promesse, mais aussi de spiritualité au sens de ce qui transcende tous les particularismes pour renvoyer à une unicité singulière qui se partage. En effet, l'Évangile nous ouvre à l'universel et il creuse jusqu'à l'unique. L'Épître aux Galates, par exemple, montre à quel point l'œuvre de Christ, loin de gommer les frontières, quelles qu'elles soient géographiques, culturelles, sociales, religieuses, ethniques, elle les dépasse pour nous permettre de les vivre autrement. Paul dit à ces communautés chrétiennes de Galatie qui se disputent que la grâce concerne fondamentalement notre être profond, ce lieu où s'enracine et s'origine ce qui fait de chacun une nouvelle créature, là où Christ prend forme dans la vie des croyants. Alors, si c'est de notre être profond dont il s'agit, le niveau de profondeur le plus grand, ce je singulier, différent du je particulier, rejoint toutes les singularités. Et c'est ça qui permet à Paul de dire plus loin, toujours dans la même épître, que les niveaux intermédiaires ne comptent plus. Il va leur dire, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et c'est en allant à ce niveau de profondeur que se fait l'unité. C'est pourquoi Paul peut dire d'une part, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et d'autre part, vous êtes un en Christ. On comprend alors que ce un en Christ n'est pas une accumulation de diversité saisie dans une certaine cohérence. Le « nous » constitué n'est pas une accumulation de « je » singulier, mais il s'agit bien plutôt de creuser jusqu'à l'unique. Et dans cette compréhension, l'enjeu est considérable pour des thèmes, par exemple, comme le dialogue interreligieux ou l'œcuménisme, et qui touchent tous les aspects de la vie de l'Église. Avec l'Épître aux Colossiens, si je poursuis dans ce sens, un autre aspect est mis en avant. Cette même réalité, ce un en Christ, est développée à partir de la plénitude en Christ. L'auteur dit ceci, dans ce un en Christ, il ne manque rien. Vous avez tout reçu pleinement, tout est dedans. La plénitude est dans l'unique. C'est dire que dans nos démarches, l'objectif n'est pas de remplir, d'accumuler, mais de creuser jusqu'à l'unique. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et c'est là que se construit indissociablement dans ce un en Christ, le nous communautaire. C'est là que se vit la rencontre, c'est là que se joue le véritable dialogue avec l'autre. Paul ne gomme pas les différences, hommes, femmes, juifs, grecs, et même esclaves, hommes libres. Mais ces différences sont lues à la lumière de Christ. Ces frontières maintenues n'ont plus du tout le même sens. Elles n'ont d'ailleurs plus de valeur dans cette perspective, parce que ce qui compte, c'est d'être en Christ. Cette dynamique signifie alors que la transmission se vit sur deux axes. Un axe temporel. Nous recevons des générations précédentes. La tradition est ici à valoriser comme enracinement, appartenance à un groupe, des groupes, avec une histoire, une culture, des règles, un héritage qui donne à chacun une identité, des repères pour lui permettre de se lier avec d'autres, différents, tant il est vrai que plus on sait qui on est, plus on peut se risquer avec l'autre sans peur de se perdre. Un axe temporel. Mais il y a aussi un axe spatial. Nous recevons les uns des autres en interdépendance. L'accent alors va porter ici sur l'innovation, avec aujourd'hui des parcours qui s'individualisent de plus en plus et qui passent d'un groupe d'appartenance à un autre, qui puisent dans ces passages, se complexifient et s'enrichissent. C'est dire si là, les clivages ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Par exemple, dans les domaines des nouveaux médias, où ce sont le plus souvent, même si ce n'est pas une règle, où ce sont le plus souvent les jeunes qui apprennent à leurs aînés. La chaîne de transmission n'est pas seulement inversée là, elle est déplacée, comme le montrent par exemple les nouveaux réseaux sociaux. La tradition n'a plus de sens quand elle devient musée ou incantation. Elle n'est vivante que lorsqu'elle est portée dans un nouveau contexte avec des adaptations et des innovations. Donc il s'agit de tenir les deux ensemble. Ce que nous avons reçu, qu'allons-nous en faire ? C'est pour moi à la fois une question existentielle et théologique, et vous allez me dire, bien sûr, ça ne se sépare pas. Et cette question est d'autant plus importante que ce qui a été appelé crise de la transmission cache une crise beaucoup plus importante, plus fondamentale, et qu'on pourrait appeler crise anthropologique. Quel genre d'individus nos sociétés façonnent-elles ? La perte des repères traditionnels est problématique, mais plus encore, avec la perte des repères traditionnels, c'est la perte du sens qui apparaît. Nos sociétés façonnent alors des êtres sans gravité. Pour reprendre le titre de l'ouvrage de Charles Mellman, « L'homme sans gravité, jouir à tout prix ». C'est-à-dire des gens qui passent d'un pôle à l'autre, d'un repère à l'autre, et même d'une religion à l'autre, et font leur propre religion. On parle d'ailleurs dans ce domaine de religion à la carte. La foi en Dieu par Jésus-Christ fait de nous des êtres libres. Nous ne sommes plus, comme le rappelle l'apôtre Paul, des êtres ballottés à tout vent de doctrine. L'orientation est donnée. C'est pourquoi il s'agit, quand c'est nécessaire, d'oser aller à contre-courant, de résister, parce que notre repère est le Dieu Jésus-Christ et non la société. Nous ne sommes pas des conformistes, nous ne sommes pas non plus des anticonformistes, nous sommes des non-conformistes, parce qu'encore une fois, notre repère, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Ce qui signifie qu'il est nécessaire et urgent de faire entendre autre chose que ce que nos sociétés mettent en avant et qui oublient que l'essentiel est l'être humain. L'homme n'est pas fait pour le sabbat, c'est le sabbat qui est fait pour l'homme. On voit alors l'implication pour la catéchèse. La visée n'est pas de faire d'abord de bons protestants, mais des personnes équipées pour faire des choix libres et responsables qui sont capables de rendre compte de l'espérance qui les habite et les fait vivre. Quels en sont alors les enjeux ? J'en relève trois. Le premier, c'est une compréhension du monde qui est fondamentalement tournée vers la vie. Nos représentations du monde sont importantes parce qu'elles induisent une manière d'être, des comportements et des engagements. Malgré toutes les turpitudes de notre monde, et surtout au XXe siècle, affirmer le oui de Dieu au monde en Jésus-Christ est une urgence dans une société en perte de sens, en quête d'espérance. Ce oui de Dieu donne aux croyants une posture particulière dans le monde, posture fondée sur l'amour de Dieu et enracinée dans l'espérance qui est comme une ancre, pour reprendre l'image de l'Épître aux Hébreux. Une ancre ne se voit pas, mais elle est là, sûre et solide pour empêcher de dériver. Pour le dire autrement, c'est prendre en compte que la réalité ne se réduit pas à ce que nous voyons et à ce que nous comprenons. La réalité ne s'épuise pas avec nous-mêmes. Ce oui de Dieu sur le monde. Du coup, le deuxième élément, c'est le sens de la vie qui est à valoriser. Contribuer par nos engagements divers à un projet de société qui ne soit pas un tout économique où seul l'argent est le maître mot, un projet de société qui ne réduit pas l'individu à une valeur marchande où rentabilité, performance et profit sont les seuls critères valables. Pensez par exemple aux drames humains dans des entreprises comme chez Peugeot ou Orange, et il y en a bien d'autres. Sortir de cette crise anthropologique, c'est remettre l'être humain au cœur des grands enjeux de ce XXIe siècle, que ce soit dans l'économie, l'écologie, l'immigration, le politique, etc. etc. Il ne s'agit pas, par exemple, de se préoccuper de la déforestation pour sauver les arbres, mais bien pour permettre à des villages entiers de vivre mieux et à la planète d'être, pour l'être humain aujourd'hui et de demain, un lieu vivable. C'est donc la notion de témoin qui a reconsidéré, et cette notion touche directement la question de la transmission. Le témoin est nécessairement engagé dans ce qu'il est, impliqué dans son témoignage. Aujourd'hui, le passage du catéchisme à la catéchèse n'est pas simplement souhaité, il est nécessaire. Parce que c'est une parole engagée qui passe par nos expériences qui est attendue. Il ne s'agit pas d'abord de donner du savoir avec les récits bibliques, par exemple, notre histoire de l'Église, mais à travers ce savoir, qui n'est qu'un moyen, donner le goût de la lecture de la Bible, donner le désir de s'approprier une manière d'être et de vivre liée à nos convictions. Le témoin appartient à une nuée de témoins, une chaîne, une tradition ecclésiale. Comment la faire vivre ? Eh bien, en la rendant vivante à chaque génération qui adapte dans son contexte ce qu'elle a reçu. Si au temps de Luther, la question du salut était liée à l'angoisse de la mort avec la préoccupation « qui sera sauvé et qui sera envoyé au feu éternel ?» Avec Calvin déjà, juste la génération après, la question est déplacée et elle est « comment rendre gloire à Dieu dans toute mon existence ?» Au XXIe siècle, ce n'est certainement pas la question de la vie éternelle qui préoccupe nos contemporains, j'ai plutôt envie de dire celle de l'immortalité, et encore moins celle de la glorification de Dieu, et là j'ai plutôt envie de dire son bien-être et sa réussite personnelle. Mais ce sujet de l'être humain, de son sens de la vie, est sans aucun doute un thème pour lequel une parole de nos églises est attendue. Et puis troisième élément, et il y en aurait bien d'autres, mais troisième élément, c'est la notion de gratuité. La notion de gratuité qui a quasiment disparu de nos circuits quotidiens. Par l'œuvre de Dieu en Christ, nous vivons du pardon et de la grâce de Dieu. Geste totalement gratuit qui ne dépend pas de nous, de nos œuvres ou de nos mérites. Mais comme l'a fortement souligné le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, la grâce nous engage. Ce n'est pas un oreiller de paresse. La grâce est une puissance de vie. Un souffle libérateur sur tout ce qui, dans nos vies, nous aliène. La vie appelle toujours plus de vie. C'est pourquoi la grâce nous engage. Le mouvement de la grâce, alors, est le suivant. Il nous a été donné, nous avons pris, et nous continuons à recevoir. Qu'est-ce que nous rendons ? Et qu'est-ce que nous sommes prêts à perdre ? Car accepter de perdre, c'est renoncer à être sur le mode de la toute-puissance, de l'avoir, et permettre de placer se rendre, non dans une logique de rétribution ou de donnant-donnant, mais sur le mode de la reconnaissance et de l'émerveillement. Que faisons-nous de ce trésor qu'est notre vie ? Comment faisons-nous fructifier ce que nous avons reçu ? Parce que le message de l'Évangile est bien celui-ci, toute vie, notre vie, n'est pas le fruit du hasard, mais le désir de Dieu, cette puissance de vie qui nous anime par son esprit. Nous le portons dans des vases d'argile, petits, grands, nous rappelle Paul, fêlés, magnifiques, tordus, qu'importe. Que faisons-nous de ce trésor ? Que faisons-nous de notre vie ? Alors évidemment, tout ce questionnement, toutes ces affirmations, qu'est-ce que cela signifie pour la catéchèse ecclésiale ? Je précise que, et mais vous l'avez bien compris, j'entends par catéchèse non seulement le travail avec les enfants et les jeunes, mais plus globalement avec le croyant, quel que soit son âge. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes tous, en effet, en situation de catéchèse. Vous savez, le vocabulaire biblique nous oriente plutôt, en parlant de catéchèse, vers des termes comme ceux d'édification, de formation. Les épîtres pastorales parlent de l'équipement des fidèles. Une manière de rappeler que nous n'en avons jamais fini d'être en apprentissage à la vie chrétienne. Luther a fortement insisté sur cette dynamique être chrétien n'est pas un état, le chrétien est toujours en devenir. C'est pourquoi je dis que nous sommes toujours en situation de catéchèse, quel que soit notre âge. Alors, quels sont les enjeux dans la catéchèse ecclésiale ? Il y a une nouvelle démarche qui est un peu moins nouvelle maintenant, parce que ça fait quand même 3-4 ans qu'elle a été mise en route. C'est cette catéchèse intergénérationnelle qui reprend tous les éléments que je viens d'évoquer. Ce contexte nouveau signifie pour nos églises que nous ne sommes pas en situation comme autrefois d'édification, d'aide pour structurer la foi, mais nous sommes plutôt en situation d'évangélisation. Parce que nous constatons que les membres de nos églises venant d'horizons très différents, y compris les enfants et les jeunes, ont de moins en moins ou n'ont pas la culture biblique et ecclésiale des générations précédentes. C'est pourquoi nos églises luthériennes et réformées ont mis en place une catéchèse intergénérationnelle, on pourrait l'appeler aussi une catéchèse globale, qui prend en compte tous les partenaires, qui fait de la catéchèse un moment d'église en soi, qui ne cloisonne pas les jeunes dans des groupes à part, même si bien entendu il faut garder des temps spécifiques par tranche d'âge parce qu'on en a besoin, mais c'est une dynamique générale. C'est aussi une catéchèse qui, est, au niveau des matériels, propose des modules dans un ensemble cohérent qui ne procède pas de manière linéaire en suivant une progression d'année en année pour une raison très simple, c'est que les jeunes, parfois, ils arrivent, ils restent un an ou deux ans, la troisième année, vous n'avez plus les mêmes. Donc, si vous pensez à un programme sur 3 ou 4 ans, il y a des trous. Mais qui propose plutôt des modules variés, ponctuels, indépendants les uns des autres. Penser dans une perspective globale, c'est une catéchèse aussi plurielle qui valorise une pédagogie très diversifiée et des matériaux variés. Ça, c'est ce que nous avons fait il y a 4 ans maintenant. Et on a essayé à partir de ça de créer des matériels qui correspondent à ces objectifs en tenant compte de ce nouveau contexte. Pour dire en une seule phrase, cette catéchèse est une catéchèse par tous et pour tous. Mais c'était aussi, l'idée, c'est de mettre aussi l'accent avec, en insistant encore une fois sur ce contexte, sur une catéchèse biblique et existentielle. Parce que d'avoir une catéchèse globale, c'est important, la démarche est importante, mais pour quel contenu? Pour transmettre quoi? Et vous le savez bien, la question n'est pas si simple, puisque ce dont nous témoignons, le Dieu de Jésus-Christ, par définition, ne se transmet pas. La foi ne se transmet pas, parce que la foi est de l'ordre de la rencontre, elle est donc personnelle. Mais notre responsabilité, c'est de réunir toutes les conditions pour que cette rencontre soit possible. Mais bien sûr, elle ne nous appartient pas et elle nous échappera toujours. Alors, un des enjeux majeurs pour la catéchèse ecclésiale, c'est donc la lecture de la Bible. Avec ce que je disais, donner le goût de la lecture, donner ce désir de s'approprier le texte. Pourquoi est-ce qu'on a insisté sur une catéchèse biblique et existentielle ? Parce qu'en soi, ce n'est pas une nouveauté, ça. C'est même ce qui fait la spécificité du protestantisme depuis que le protestantisme existe. À savoir que notre catéchèse n'est pas d'abord doctrinale, même si elle inclut des éléments doctrinaux. Elle est d'abord et avant tout découverte des textes bibliques. La nouveauté, c'est l'accent. C'est qu'un accent. Hein. L'accent sur une lecture existentielle. Bien entendu, cet aspect a toujours été présent. Mais de mettre l'accent, c'était de développer un objectif double. D'une part, apprendre à lire le texte biblique en lien avec son existence individuelle et collective. Et c'est là où les questions de nos contemporains reprennent le pas. Et en prise donc avec ces questions de notre société. D'autre part, c'est transmettre le goût de la lecture des textes bibliques, et cela pour au moins 2 raisons. Vous le savez aussi, parce que vous l'expérimentez, ces textes font et feront surface dans la mémoire au moment où, dans telle ou telle circonstance de la vie, ils seront nécessaires pour encourager, pour exhorter, pour apaiser, pour consoler, etc. Or, si ils ne sont pas connus, ils ne referont pas surface. Donc, il faut les donner. Deuxième élément, c'est parce que là où mes propres mots sont insuffisants, seront insuffisants selon les circonstances de ma vie, ils permettront d'être un relais. Ils permettront de ne pas me sentir seule, abandonnée, parce qu'ils s'inscrivent dans la communauté des humains depuis des millénaires. Ce que je vis n'est pas unique. D'autres l'ont aussi vécu, d'autres ont prié, d'autres ont aussi imploré Dieu. Leurs mots peuvent être les miens, et à travers leurs témoignages, je peux encore entendre une parole que Dieu m'adresse. Pensez par exemple au livre des psaumes. Et du coup, un autre enjeu majeur concerne le catéchète, cette fois lui-même. Dans ce contexte nouveau, et là c'est un vrai virage qui s'opère, celui-ci est d'abord un témoin avant d'être un enseignant. Transmettre passe toujours par la personne, parce que l'enjeu est de passer quelque chose de la vie, de vivant, de vital. Nous transmettons des savoirs bibliques, théologiques, mais ce ne sont que des outils, des moyens, jamais l'objet lui-même. Ils ne sont jamais en eux-mêmes la finalité. Et quand nous le faisons, encore une fois, l'enjeu n'est pas l'accumulation de connaissances, mais la possibilité de donner à l'autre une capacité d'autonomie, de sens critique, pour qu'il puisse librement et de façon responsable faire ses propres choix de vie, dans les grands moments comme dans les petites décisions du quotidien. C'est pourquoi nous sommes passés, je disais tout à l'heure, nous sommes passés du catéchisme à la catéchèse. Il ne s'agit pas de dire « c'était pas bien avant, c'est bien maintenant ». Ce qui fait faire ces virages, c'est qu'on est dans un contexte nouveau. C'est que les questions sont nouvelles. Autrefois, quand effectivement on était dans un contexte où, je vais le dire de façon un peu plus rapide, le protestantisme se transmettait de père en fils, la culture ecclésiale y était. Donc il y avait des tas d'éléments qu'il ne s'agissait pas de donner puisqu'on les avait. Mais maintenant qu'on ne les a plus, on est dans une autre démarche. Je vais le dire autrement, l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de recevoir une instruction religieuse, mais de témoigner de l'Évangile auprès de celles et de ceux qui nous sont confiés, jeunes et moins jeunes. C'est dire si la catéchèse est l'affaire de toute l'Église et non du seul ministère des catéchètes. Transmettre, alors, nous enracine dans le passé et nous propulse dans un présent à vivre. Oser vivre, oser comme Abraham sortir des carcans familiaux, sociaux, géographiques même, pour vivre sa propre vie. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je te montrerai. Et vous savez très bien que l'appel de Dieu veut dire dans ce « va », « va vers toi », »,« va pour toi ». Mais on l'aura compris, ce n'est pas faire table rase comme si le monde commençait avec nous, comme si nos prédécesseurs n'avaient rien vécu, rien vu, rien compris. D'ailleurs, cette posture, si quelqu'un le voulait, serait tout simplement impossible, tant il est vrai que nous ne sommes pas notre propre origine. Nous n'existons que parce qu'un autre nous a nommés, nous a appelés. La parole lie, met en lien. Comment alors passer la parole? Dans cette perspective, j'insiste encore, seule aujourd'hui, cette démarche existentielle prend en compte la totalité de cette parole. Parce que l'être humain est un être de parole, et une parole qui n'est pas incarnée n'est pas une parole, ce sont des mots. Pour être entendu, au moins deux éléments inséparables sont nécessaires. Incarner ce qu'on dit. J'ai toujours gardé ce qu'André Gounel à la faculté de Montpellier nous disait au moins une fois par semaine. Avoir une intelligence de la foi pour une foi intelligente. Parce que c'est pouvoir en parler, c'est apprendre les mots pour dire et partager avec d'autres. Et puis deuxième élément, c'est prendre en compte l'autre pour pouvoir l'atteindre et le rencontrer. Et aujourd'hui, je crois que c'est un enjeu majeur dans nos sociétés et dans nos églises, parce que nous sommes dans une société multiculturelle. Et on fait comme si on était dans une culture quasiment unique. Je disais par exemple, quand je fais des formations de conseillers presbytéraux, je dis par exemple, comment est-ce que le partage du gouvernement de l'Église se fait? Est-ce que les différentes cultures au sein de l'Église sont prises en compte et comment? Comment est-ce que, par exemple, dans la vie culturelle de l'Église, sont prises en compte ces différentes cultures, puisqu'elles sont, de fait, elles sont là. Il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est pas bien. Elles sont là. Comment est-ce qu'on les prend en compte? En catéchèse, évidemment que les enfants, les jeunes sont concernés aussi directement par ces questions. Et là aussi, il me semble qu'ils peuvent nous aider. Et je voudrais terminer juste par ce petit mot, transmettre. Pour moi, c'est donc un mouvement, une dynamique qui met en lien, qui implique chacun, celui qui reçoit et celui qui témoigne. Et dans ce mouvement, il n'y a ni captation, ni emprise sur l'autre, parce que le véritable témoin ignore qu'il est devenu pur signe donné à autrui quand la vie de l'un devient signe de vie pour l'autre. Non seulement il ne se laisse pas voir d'emblée, mais les rôles ne sont pas fixes. Et c'est ça aussi que j'ai appris en catéchèse. Alors, cette fois, le travail que je faisais avec les enfants, à un moment donné, ils ne le savent pas forcément, comme nous d'ailleurs, c'est eux qui nous apportent une parole qui fait vivre. La grâce est aussi de nous laisser saisir par l'inattendu de Dieu.
Merci Anne-Laure. Je crois que tu es prévu pour quelques cultes prochainement. Hein. C'est ça, hein? Si, il me semble avoir vu ton nom dans mes registres. Voilà, dans tous les cas, on espère ton retour prochain dans ces murs. Et je rappelle, est-ce qu'il y a un pot d'accueil prévu tout à l'heure où le froid vous a paralysé? Alors, je vous convierai pour la fin de nos affaires, si je puis dire, dimanche prochain. Où il y a un repas qui est prévu pour finir nos conférences, où tu es invité, évidemment. Je ne sais pas si tu y seras, non? C'est ça, hein, tu, voilà. Et donc, si vous voulez participer à ce repas, il faut voir le cahier qui est au fond. Mettez votre nom si vous venez manger, et mettez votre nom si vous venez manger et si vous apportez quelque chose. Voilà, ça c'est pour dimanche prochain. Je rappelle que... Pour votre gouverne, sachez, puisqu'on a parlé de catéchèse, que vendredi dernier soir, notre groupe de catéchumènes, les aînés, étaient sur la scène sur une vedette de Paris. Donc ils étaient dans le vent, le froid et la neige, mais ils s'en sont tous sortis vivants et en bonne santé, je précise, parce qu'il était chaudement recommandé, si je puis dire, de venir avec bonnet, damar et tout ça. Alors j'espère qu'ils auront gardé un souvenir de cela tout à fait positif. Mais ce matin, c'était moins amusant pour eux, puisqu'on a quand même discuté sur la notion d'éros et d'agapé. Vous voyez qu'on fait des choses sérieuses, hein. Je veux dire, dans la catéchèse des adolescents. Voilà, on va rester dans la transmission aussi. Par cette annonce, vendredi prochain, nous avons les JMJ, vous savez. Donc c'est les jeunes ménages et jeunes, ou jeunes ou moins jeunes, c'est comme on veut. Mais ces JMJ vendredi prochain se pencheront sur les premiers christianismes. Car au 1er, 2e, 3e siècle, il y avait un nombre d'églises chrétiennes impressionnant et qui ont quasiment toutes disparu, laissant la place au christianisme classique que l'on connaît et dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Mais il y avait à cette époque des courants qui étaient très très proches des courants libéraux d'aujourd'hui. C'est assez étonnant de voir ça. Donc on verra, on se penchera là-dessus vendredi prochain avec ce groupe. Je rappelle que nous avons cet après-midi les cantates qui se continuent. J'espère que vous serez là tout à l'heure, je ne sais pas. J'espère qu'il n'y aura pas trop de neige dans la journée aussi, évidemment, puisque il doit neiger toute la journée, paraît-il. Mais enfin, voilà. Dans tous les cas, vous serez les bienvenus. Je vous rappelle que ces cantates ont lieu à 17h30 et que si vous voulez être bien placé, il vaut mieux arriver un petit peu avant. C'est le premier dimanche du mois aussi, et je vous rappelle que nous avons les paniers pour recueillir vos dons en nourriture pour la mission évangélique auprès des sans-logis aussi. Voilà. Hein, donc, pensez-y aussi. Régulièrement, nous avons cette collecte organisée tous les premiers dimanches du mois aussi. Mais enfin, si vous arrivez le deuxième dimanche, on les gardera jusqu'au dimanche d'après, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Voilà. D'autres annonces, là ? Alors, tu viens la faire, là, parce que moi, tu la feras mieux que moi.
Oui, le DEFAP, votre service protestant de mission, lequel je travaille maintenant, vous savez que ce service protestant de mission concerne l'ensemble des églises réformées et luthériennes en France, et nous organisons tous les 4 ans un grand forum. Cette fois-ci, il prend une tournure un peu particulière. Il y aura lieu le dernier week-end d'avril à Rouen, et on est sur les questions: qu'est-ce qu'une église missionnaire, qu'est-ce qu'une paroisse missionnaire au XXIe siècle? Ça veut dire comment est-ce qu'on tient ensemble paroisse, église locale et église universelle. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, comment est-ce qu'on prend en compte les différentes cultures qui sont au sein de notre église, comment est-ce qu'on s'enrichit les uns les autres, comment est-ce qu'on peut être en lien aussi avec des églises sœurs, tout simplement parce qu'aujourd'hui, plus encore qu'hier, dans une société mondialisée, on ne peut pas vivre simplement dans son coin. On est tous en interdépendance et on a besoin les uns des autres. Donc il s'agit là aussi de réfléchir à ces questions très concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire pour la paroisse? Et de se donner des idées, de voir les différents aspects, autant en catéchèse, pour les groupes de jeunes. Vous savez qu'il y a énormément de cours internationaux qui se mettent en place, d'échanges, de jumelage d'église à église, au sein de la paroisse, accueillir d'autres communautés, qu'est-ce que ça veut dire, comment on se lie les uns aux autres, etc., etc. Donc c'est à la fois de la réflexion, de trouver des bonnes idées, d'échanges de bonnes idées, et on souhaiterait qu'il y ait une ou deux personnes par paroisse. Alors si au foyer de l'âme, une ou deux personnes pouvaient donc se libérer pour ce week-end, ce serait formidable. On attend un peu plus de 400 personnes pour couvrir l'ensemble de nos paroisses. Je précise que seul le voyage est à votre charge. Tout le reste est pris en charge par le DEFAP. Les logements se font à l'hôtel. Tout est déjà réservé. Et donc, il y a aussi, bien sûr, une part de festive et de rencontres dans ce genre de week-end. Et le dimanche, on aura un grand culte au temple Saint-Éloi de Rouen, qui doit rappeler à mon collègue quelques souvenirs. Voilà, donc j'ai laissé à Vincent des tracts, et voilà, si vous pouvez voir ça. Voilà, merci beaucoup.
Oui, si vous allez au temple Saint-Éloi, vous verrez les petits angelots qu'il y a au fond du temple, et vous pourrez les compter aussi. C'était un des grands sports des paroissiens de Rouen. Enfin, si vous allez à Rouen, il n'y a pas que ça à voir. Outre le DEFAP, il y aura aussi, je suppose, non, il n'y a pas une visite de la ville, peut-être, non? Voilà, hein, si vous ne connaissez pas Rouen, ça vaut la peine d'y aller. Il y avait d'autres choses pour la semaine à venir. Je rappelle que mercredi prochain, nous avons la Genèse qui continue. Donc, nous ferons le deuxième jour. Jeudi, il y a l'entraide. Et samedi 11, à 10h30, nous avons le groupe Évangile et Liberté. Nous nous pencherons sur le dernier cahier, c'est-à-dire sur la gourmandise. Voilà. Vous pouvez apporter des gâteaux, si vous voulez, des choses comme ça. Hein, c'est pas interdit à cette occasion. Voilà. Je ne vais pas vous lâcher sans vous annoncer l'offrande, évidemment. Vous n'y échapperez pas. Donc, et pendant ce moment d'offrande, auquel je vous invite à participer avec un certain plaisir et d'avance, je vous en remercie. Je vous invite à prendre le psaume 19, hein, c'est ça, hein? Voilà, en entier, on le chantera. Le psaume 19 en entier. En pensant peut-être tout particulièrement par les temps qui courent à ceux qui sont parmi les plus démunis, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui sont chers à nos cœurs, je vous invite à partager notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Il va falloir se séparer et repartir dans la neige et le froid, ce qui n'est une perspective peut-être peu réjouissante, je ne sais pas, mais dans tous les cas, j'espère que vous avez chaud au cœur par tout ce que vous avez entendu et que, partant de par les rues et les villes, vous allez, vous serez véritablement les témoins qui sauront transmettre l'essentiel, comme il nous a été dit, et chose à laquelle nous sommes les uns et les autres exhortés. Alors, effectivement, allez vers le monde, vers l'avenir et vers la vie qui vous attendent et qui ont besoin de vous et dont vous avez besoin aussi. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde maintenant et à jamais. Allez en paix. Amen. Page 25. Garde-nous, Dieu fidèle. Amen.